Et c'est maintenant Laure que j'accueille sur notre libre antenne. Bonsoir à vous, Laure.
Bonsoir, Sabine.
Bienvenue.
Donc, moi, je viens vers vous pour vous parler d'un deuil. Donc, je viens vers vous parce que je sais que vous parlez bien aux gens, enfin, vous rassurez bien les gens sur le deuil. J'ai écouté plusieurs de vos témoignages à ce sujet. Mmh. Et donc, moi, en fait, je viens vous parler du deuil, du décès de ma grand-mère.
C'était il y a combien de temps ?
C'était le 11 février.
D'accord.
De cette année. Et donc, en fait, elle est partie assez vite, donc j'ai pas eu le temps de... Enfin, on s'habitue pas vraiment à la perte d'un être cher, mais bon, c'est vrai que depuis qu'elle est morte, j'ai l'impression d'être morte avec elle, et c'est pas évident tous les jours. Et enfin, voilà, ça s'est passé, comme je vous l'ai dit, assez vite.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Ben en fait, elle était tombée chez elle, donc l'infirmière l'avait ramassée. Ensuite, ils n'ont pas voulu l'hospitaliser par rapport au Covid. Ils ont ensuite, l'infirmière l'a fait venir son médecin traitant qui l'a maintenue chez elle et qui après a décidé de la maintenir chez elle, sauf que ça allait pas, ça allait toujours pas. Elle avait des idées confuses. Et donc après, c'est mon père qui a pris le relais, qui a couché chez elle, qui a veillé sur elle. Moi, la dernière fois que je l'ai vue, c'était le 2 février. Elle a été hospitalisée le 5. Mmh. Voilà. Et ensuite, il est allé la revoir à l'hôpital. Et ensuite, peu de temps après, elle est partie. Et voilà, c'est pas évident depuis, j'ai du mal. Et voilà.
Alors, comment elle s'appelait, votre grand-mère ?
Comment ?
Comment elle s'appelait, votre grand-mère ?
Suzanne.
Suzanne ?
Oui.
Et elle avait quel âge ?
88.
Ah oui, c'est quand même un bel âge.
Oui, c'est un bel âge. On peut dire qu'elle a eu une belle vie, qu'elle a bien vécu, elle a été bien entourée.
C'est une chance déjà.
On n'a pas de regrets là-dessus. On sait qu'elle a été heureuse dans sa vie, qu'on l'a rendue heureuse. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même beaucoup de mal par rapport à son départ.
Alors, vous, Laure, vous avez quel âge ?
29.
29 ans, vous êtes toute jeune.
Oui.
Oui,
mais...
Oui ?
Mais en fait, si vous voulez, elle se faisait beaucoup de soucis pour moi. Et c'est vrai que quand elle est partie lors de son enterrement, je lui ai fait des promesses que pour le moment, je ne peux pas tenir. Et c'est vrai que ça m'embête un peu.
Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Quels étaient vos liens ? J'ai l'impression que vous étiez presque plus proche de votre grand-mère que de votre mère.
Oui, c'était comme ma mère. Ma grand-mère, c'était en fait la mère que j'aurais aimé avoir.
Et pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille ?
Moi, j'ai jamais eu de très bons liens avec ma mère. Elle m'a toujours descendu plus bas que terre. Je sais pas, moi, j'ai pas eu l'impression d'être désirée par ma mère. C'est ce qu'une psy m'avait dit. Et que après, au début, j'avais trouvé ça bizarre. Et puis après, je me suis dit, en fait, c'est après que j'ai compris ce qu'elle a voulu dire, en fait. Et voilà, en fait, au moins, ma grand-mère, elle me dévalorisait pas. Elle me descendait pas plus bas que terre. Mmh. Et elle était sympa avec moi, quoi. On rigolait, on discutait. J'étais très présente pour elle. Voilà, quoi.
Vous avez des frères et sœurs ?
Oui, j'ai un frère, mais c'est comme s'il n'existait pas.
Votre mère se comportait différemment avec lui ?
Oui.
Ah, c'est ça. C'était le préféré, ouais. C'est ça ?
C'était pas le préféré, mais c'était celui qui était le plus mis en valeur.
Oui, ce qui revient au même, ce qui vous donne l'impression que vous n'avez pas de valeur, quoi.
Bah oui, parce que depuis qu'elle est décédée, à chaque fois on demande des nouvelles de mon frère, mais moi on ne demande pas de nouvelles de moi. C'est comme si je n'existais pas, en fait.
Est-ce que vous avez compris pourquoi votre mère s'est comportée comme ça ? Qu'est-ce qui n'allait pas chez elle pour qu'elle ait cette façon d'être ?
Moi, je pense, si j'analyse ça un peu comme un psy, je pense que c'est parce qu'elle n'a pas été... Elle a dû être maltraitée par son père et que c'est pour ça qu'elle a répercuté ça sur moi, ou enfin, je sais pas.
Oui, mais ce que j'entends, c'est que c'était sur vous et pas tellement sur votre frère.
Mmh.
Donc
ouais.
Là aussi, il y a quelque chose de bizarre à creuser, quoi. Pourquoi l'une et pas l'autre ?
Mmh. Oui. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous répondre, je ne suis pas dans sa tête.
Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que vous avez développé avec votre grand-mère une relation très très proche. Et que finalement, elle a pallié à ce manque d'amour. Et ça, c'est la chance quand même que vous avez eue. Et puis, vous l'avez eue longtemps, vous, proche de vous, près de vous.
Oui, je l'ai eu très longtemps, parce que je me suis bien occupée d'elle et puis j'ai aucun regret là-dessus. J'étais toujours là quand elle avait besoin de moi, quand elle demandait après moi. Pour moi, j'ai jamais failli à mon rôle de petite fille. J'étais toujours là. Ouais, c'est dur parce que son absence, voir la maison vide, savoir que mes parents ils vont reprendre la maison et qu'après on va l'habiter dedans, c'est dur.
Ah, attendez, racontez-moi justement, cette maison par rapport à là où vous habitez, elle est où?
Elle se situe dans le 9e et nous on habite dans le 10e, donc c'est pas très loin. C'est pour ça que mes parents ils avaient acheté l'appartement dans lequel ils vivent, donc ils ont pas voulu habiter loin de chez elle pour que si jamais elle avait besoin d'eux. Et du coup, ils n'ont jamais habité si loin que ça. Et donc, nous, on était très souvent chez elle. On a passé toute notre enfance chez elle. On mangeait tous les dimanches chez elle, tous les samedis chez elle. On était tout le temps chez elle, en fait, hein.
Donc c'est un lieu qui est chargé de souvenirs.
Oui, c'est un lieu qui est chargé de souvenirs. C'est là où on a passé la plupart de notre enfance. Mais aujourd'hui, si vous voulez, pour moi, cette maison. Elle ne représente plus rien vu qu'elle n'est plus là.
Et vous me dites que vos parents veulent s'y installer, c'est ça?
Ben oui, ma mère, elle veut la reprendre. Donc là, ils sont en train de faire des travaux pour la retaper. Et elle veut la reprendre et habiter dedans.
Mais vous habitez où?
Ben moi, j'habite avec eux puisque je n'ai pas les moyens financiers d'habiter seule pour le moment.
Ah,
Donc je suis
d'accord.
obligée de les suivre. J'ai pas trop le choix. Je ne peux pas faire autrement.
D'accord. Et vous, ça vous convient pas du tout de redevenir, de revenir dans cette maison refaite?
Non, parce que non, j'ai pas très envie d'y aller. Ça me fout le cafard à chaque fois que je vais dedans. Je la vois vide, je vois sa place où elle était tout le temps assise vide. Ça fait un drôle d'effet. Et c'est surtout parce qu'en fait, je crois que je fais une fixette sur autre chose en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils ont fait les travaux, les ouvriers, ils ont creusé derrière la maison pour faire l'arrivée d'eau pour les toilettes. Et ils ont délogé un crapaud et je crois que je fais une fixette là-dessus et du coup j'ai peur de me retrouver face à ça parce que j'ai la phobie des insectes et tout ce qui se rapporte aux insectes et du coup
C'est pas
j'ai
vraiment un
peur.
insecte, un crapaud.
Non, c'est pas un insecte mais bon, ça me fait peur quand
Mais
même.
alors ça, vous pourriez vous faire soigner sur ça. Ça se soigne une phobie, hein.
Ah oui.
Parce que c'est quand même vous pourrir la vie pour pas grand-chose. Si c'est juste à cause
Oui,
d'un crapaud.
je sais, c'est ridicule,
Non, 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 non,
mais.
sûrement pas. Je dis absolument pas ça. Une phobie, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer soi-même. Ça n'a rien de ridicule. Quand on le vit, c'est quelque chose de compliqué. Mais je vous dis que ça se soigne parce que c'est dans cette maison, moi, à l'inverse, vous pourriez y retrouver justement tous ces bons souvenirs, tous ces bons moments passés avec elle, plutôt que de vous focaliser sur ce qui est négatif ou sur un crapaud, sur une phobie. Il faudrait arriver, si vous voulez, à transformer tout ce qui est gris là en ce moment en lumière. Parce que certes, vous dites son siège est vide, son fauteuil est vide, mais c'est aussi là qu'il y a tous les beaux souvenirs. Et ça,
Mais bon,
c'est important d'arriver à repenser à ça. Est-ce qu'avant elle, vous avez vécu d'autres deuils qui ont été difficiles ou douloureux?
ben avant elle, il y a eu la tante qui est décédée en 2019. Après, il y a eu sa fille en 2020. Et après, il y a eu son frère à ma grand-mère qui est décédée ben, la même année qu'elle. Mais on l'a su qu'après qu'elle soit décédée. Donc finalement, elle est partie sans le savoir. Parce que mes parents, ils pensent qu'elle est décédée parce qu'elle a ressenti que son frère est décédé. Donc elle a voulu partir pour le rejoindre.
Mais est-ce que pour vous, ça a été très aussi douloureux? J'ai pas l'impression, là, en vous entendant. C'était pas des gens dont vous étiez aussi proche que ça.
Non, bah la tante, on la voyait souvent, mais non, j'étais pas aussi proche d'elle. Hein. On la voyait souvent, oui, mais après c'était pas aussi proche que ma grand-mère, ni sa fille, ni son frère. Hein. J'étais plus proche de ma grand-mère, bien évidemment.
Donc c'est la première fois que vous vivez un deuil qui fait mal à ce point-là, quoi.
Un deuil aussi violent, oui, parce que forcément j'étais tout le temps avec elle, donc d'un coup quand il n'y a plus rien, c'est dur, hein, c'est dur.
Bah, elle est tout le temps là quand même dans votre cœur et dans votre esprit, il faut jamais oublier ça.
Ah oui, ça c'est sûr qu'elle est tout le temps là, elle est tout le temps là. J'avais peur de l'oublier, mais elle est tout le temps là. Voilà.
Et puis aussi, se dire que vous avez eu la chance qu'elle a croisé votre vie, cette grand-mère. Et qu'elle était là pour vous, parce qu'elle a, elle a drôlement bien joué son rôle et drôlement compensé ce manque d'amour.
Oui. Bien sûr.
Parce que c'est sûr que quand on, c'est normal et c'est humain quand on est triste et qu'on a perdu quelqu'un, on voit que ce qui est que ce qui fait mal, mais on en oublie aussi tout ce qui a été formidable. Et dire merci, merci à la vie de l'avoir eu et de l'avoir eu si longtemps. Merci à la vie qu'elle ait pu compenser au moins à sa manière tout ce qu'il n'y avait pas chez votre maman.
Ouais, c'est ce que je me dis, c'est ce que je me dis tous les jours. Et quand j'ai ces pensées, ces mauvaises pensées, ces idées noires, je la vois en train de me crier dessus, de me dire non, il ne faut pas penser à ça,
Il faut penser à
autre chose.
C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous pensez que si elle vous voyait, elle serait contente de vous voir dans un état négatif comme ça?
Non, ça ne lui plairait pas. Ça ne lui plairait pas.
Est-ce que vous avez pensé à vous faire aider, à aller voir une thérapeute pour parler un petit peu d'elle, ou vous n'avez pas envie de le faire?
J'en ai vu une après qu'elle soit décédée, par rapport à là où je suis suivie pour l'emploi. Mais ça a été qu'une séance, mais du coup après j'ai repris, mais du coup après ça s'est arrêté avec la psy avec laquelle j'allais depuis 2020. Et après on a rebasculé sur les TCC, donc un psychiatre TCC. Mais pour le moment, il n'y a aucun résultat dans la TCC.
Alors, vous me parlez aussi de ce problème de travail. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'à 29 ans, vous n'arriviez pas à être indépendante?
C'est parce qu'on en avait déjà parlé. Je vous avais contacté à ce sujet. En fait, c'est parce que je suis handicapée. J'ai beaucoup de mal à me maintenir dans un travail.
D'accord.
C'est pas que je veux pas, en fait, c'est que j'y arrive pas. Je suis autiste, ça m'handicape pas mal. Et on essaye avec ma conseillère de trouver des compromis pour essayer d'avancer, mais c'est pas évident.
D'accord, mais vous avez un autisme très léger, visiblement.
Oui, j'ai un autisme léger, mais j'ai un autisme quand même qui m'handicape.
D'accord, donc les émotions se gèrent différemment, évidemment, je ne savais pas ça. Je ne savais pas que c'était vous que j'avais eu à l'époque. Je n'ai pas fait le rapprochement.
Oui.
D'accord.
L'autisme, il a été déclaré il n'y a pas longtemps. Il a été déclaré, il n'a pas été encore diagnostiqué, mais il a été déclaré par la psy. Elle pense que je souffrirais d'un autisme léger, apparemment.
De syndrome autistique, peut-être. Et quel genre, par exemple, qu'est-ce qui lui fait penser à ça?
Le fait qu'il y ait les relations sociales, c'est pas ça. J'aime pas qu'on me touche. Il y a plein de trucs qui, après, on n'a pas fait tout ça dans les détails, mais elle m'a donné quelques détails dont je viens de vous parler. C'est vrai que quand elle m'a parlé d'autisme, ça m'a fait peur. Parce que...
Attention aux étiquettes, un peu rapidement mises, quand même.
Oui.
Je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas être touchés et qui sont assez sauvages et qui ne sont pas autistes pour autant.
Après, je dois quand même souffrir d'un handicap. Si j'en suis là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut trouver qu'est-ce que c'est.
Vous pouvez souffrir simplement de blessures émotionnelles profondes aussi. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez violent chez vous lié à cette maman qui n'a pas été une maman, quoi.
Oui. Après, il faut quand même avancer, on va pas rester là-dessus.
C'est ce que j'allais vous dire à un moment donné. Quand on arrive à considérer que les épreuves qu'on a vécues, tout ce qui nous arrive, ce sont des épreuves justement, et qu'on accepte de se dire « Ok, je vais surmonter ça », alors on va vers une nouvelle énergie. On arrête de tourner en boucle. Et de laisser le passé nous diriger, on se dit « Ok, c'est bon, c'est passé, j'ai fait ce que j'ai pu, je m'en suis sortie, et maintenant je regarde devant. Chaque matin.
À chaque fois que j'essaye de regarder devant, il y a toujours un obstacle qui se met sur ma route, et c'est pas évident.
Ça serait quoi un obstacle, par exemple?
Par exemple, je sais pas, moi, depuis 2016 que j'ai pas travaillé, j'ai fait que des petits boulots, et j'arrive pas à m'en sortir, c'est pas évident, et à chaque fois que j'ai un petit boulot... Il y a toujours un truc qui ne va pas, ça ne va pas, toujours un truc qui ne va pas. À chaque fois que j'essaye de remonter la pente, je la redescends. Il faut que je remobilise de l'énergie pour la remonter. Et à chaque fois, c'est pareil, énergie, 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 à force de dépenser l'énergie, et au final, j'ai l'impression que là, j'en ai plus.
Il faut trouver des moyens de vous ressourcer aussi, justement, de rallumer cette énergie-là. Vous occupez de vous, qu'est-ce qui vous fait du bien dans la vie? Même des toutes petites choses, qu'est-ce que vous aimez?
La lecture,
Oui.
marcher, faire des randonnées, prendre l'air,
Parce que vous
faire du
savez,
shopping.
ben voilà, souvent on sait ce qu'on devrait faire pour se faire du bien, mais on ne le fait pas. Prendre soin de soi, ça passe par 1000 petites choses par jour.
Après, c'est sur un court temps, hein, c'est malheureusement, c'est sur un court temps le plaisir. Après, ça dure pas longtemps.
Oui, mais c'est toujours pareil. Quand on dit, par exemple, quand on dit à quelqu'un qui est en dépression qu'il faut aller prendre l'air pour s'oxygéner, c'est pas en une promenade d'un quart d'heure que ça va changer les choses. Mais c'est tous les jours une promenade d'un quart d'heure qui va changer les choses. C'est toujours pareil. C'est un pas après l'autre. On veut
C'est
toujours aller
sûr.
plus vite que la musique. Vous savez, on met du temps pour chuter, que ce soit physiquement ou moralement. Il faut aussi du temps pour se relever. Et comme vous dites, on se relève et puis on rechute et on se relève. Et c'est ça aussi la persévérance. Et c'est ça aussi se dire, voilà, chaque épreuve me permet de grandir et d'apprendre. Et je pense que vous avez quand même déjà pas mal de recul sur tout ce qui vous arrive et une bonne analyse des choses. Pour quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de thérapie.
Oui, j'ai une analyse, forcément, vu ce qui s'est passé. Oui, j'analyse, oui. Mais j'ai pas les solutions parce que j'ai l'impression que c'est les gens qui attendent des solutions de ma part, sauf que moi, les solutions, je les ai pas.
Bah, c'est pour ça qu'un bon thérapeute est là, non pas pour vous donner une solution, mais pour vous aider à la trouver vous-même.
Et pour le moment, j'ai pas l'impression qu'ils m'aident beaucoup à trouver des solutions.
Alors peut-être devriez-vous changer de thérapeute tout simplement, trouver quelqu'un qui vous convienne. Ça aussi, souvent, c'est un problème. On est avec quelqu'un, on n'ose pas dire que ça n'avance pas ou qu'on se sent pas bien, mais on a le droit. C'est important le feeling avec un thérapeute. Quelle que soit la thérapie, il faut vraiment non seulement qu'on se sente bien, mais qu'on sente que ça avance. Quand j'ai des gens qui me disent ça fait 5 ans que je suis en thérapie et je vais pas mieux, ça m'inquiète un peu quand même. Ça peut vouloir dire que ça passe pas entre la personne et vous, que c'est pas voilà, c'est pas la bonne personne pour vous.
Non, moi, le problème, c'est pas que ça passe pas, c'est que on parle de la pluie et du beau temps, mais on parle pas des problèmes. Alors peut-être que c'est moi qui en parle pas. Peut-être qu'il faudrait que j'en parle un petit peu plus.
Pourquoi vous n'en
Je sais
parlez
pas.
pas?
Parce que je sais pas. Je sais pas, peut-être que j'ai honte, je sais pas.
Mais vous savez que chez un thérapeute, il n'y a pas à avoir honte de quoi que ce soit. Elle est là pour ça.
Je sais.
Peut-être
Je sais tout ça.
pourriez-vous la prochaine fois justement lui dire ce que vous m'avez dit là en disant je me rends compte que je ne vous parle pas assez de ce qui est vraiment important pour moi.
Oui, ça j'y ai pensé. Je me suis dit, la prochaine séance, j'en parlerai.
Ça me paraît important effectivement d'aller un peu plus loin vous-même, puis vous voyez ce qui se passe. Mais de lui dire maintenant j'ai besoin de rentrer dans le gras du sujet, quoi, vraiment. Parce que la pluie et le beau temps, ça va 5 minutes, mais il faut que je vous parle de ce qui me fait vraiment mal. Non. Je pense qu'elle peut être à l'écoute et que ça peut ouvrir aussi un nouveau dialogue entre vous.
Oui, après, il faut que je fasse aussi sortir toute la colère que j'ai en moi aussi.
Ça aussi, bien sûr. C'est pour ça que mettre des mots là-dessus, ça serait dommage d'avoir une thérapeute en face et de ne pas le faire. Et peut-être vous avez attendu que ça vienne d'elle. Bon, il se trouve que ça n'est pas venu d'elle, ça peut venir de vous maintenant. Exprimer, comme vous dites, là, cette colère. C'est quoi cette colère? C'est un sentiment d'injustice?
Je sais pas, j'ai l'impression de pas être à ma place dans ce monde, de pas être utile, de pas être écoutée, entendue, de servir à rien en fait.
Mais on en revient, je pense, vraiment à la manière dont vous avez été maltraitée psychologiquement quand vous étiez petite, quoi. On vous a donné vraiment l'impression que vous ne valiez rien. Et une partie de vous a grandi en pensant que c'était vrai, alors que ça n'est absolument pas vrai.
Oui,
C'est
c'est pas vrai.
votre mère qui avait des problèmes. Ça n'enlève
Non,
rien,
c'est pas moi.
ça n'enlève rien à votre valeur à vous.
Oui, bien sûr.
Seulement, comme petite fille, vous avez grandi avec l'impression que bah, si vous étiez mieux, elle vous aurait aimé davantage. Or, le problème, ce n'était pas vous, c'était son incapacité à elle d'aimer, de vous aimer. C'est important de comprendre ces choses-là. Et c'est important de mettre des mots dessus. Et vraiment, je crois que vous avez pris une bonne décision en disant ce soir, voilà, je vais oser en parler à ma thérapeute. Parce qu'effectivement, si vous parlez de la pluie et du beau temps en espérant que ça vienne d'elle et qu'elle attend que ça vienne de vous, ça peut durer un moment comme ça. Vous la voyez à quel rythme?
Normalement, je la vois une fois par semaine, mais après, ça s'est arrêté puisqu'elle a laissé prendre le relais au psychiatre TCC. Mais le problème, c'est que il me plaît pas, le psychiatre TCC.
Eh bien, dites-le, vous avez le droit de le dire aussi.
Mais je lui ai dit, mais elle m'a dit, il faut que vous la fassiez, la psy TCC.
Oui, mais d'accord, mais vous faites de la TCC. Alors, je précise pour les gens qui ne connaissent pas, c'est thérapie comportementale et cognitive.
Elle m'a dit qu'on ne pouvait pas faire les deux, on ne pouvait pas suivre avec elle et faire la TCC, sauf que moi, en fait, je voulais faire les deux. Elle m'a dit non.
Bah, si vous préférez faire une TCC, faites-le, mais avec quelqu'un qui vous convient. Si c'est ça que je voulais vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de changer de thérapie, mais vous pouvez changer de thérapeute.
Oui. Sauf qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup des psychiatres TCC sur Marseille, il n'y en a qu'un seul.
Oh,
Et du coup.
Aux alentours, vous allez peut-être en trouver quand même.
Ben, celui qui est conventionné secteur 2, il n'y en a qu'un.
Alors ça, je ne vais pas pouvoir vous aider beaucoup là-dessus, Laure, mais en tout cas, ne vous laissez pas faire non plus et parlez, si vous avez besoin de parler, parlez-lui. En tout cas, à cette thérapeute-là. Dites-lui que même peut-être pour l'instant, c'est surtout d'elle dont vous avez besoin, plutôt que de la TCC.
Oui.
De mettre des mots sur ce qui vous fait mal. C'est peut-être votre priorité. Dites-lui que c'est votre priorité et puis voyez comment elle réagit. D'accord ?
D'accord. D'accord.
Prenez bien soin de vous, Laure.
Merci.
Je vous embrasse.
Merci, au revoir.